Les Misérables de Victor Hugo. Adapté par Hélène Bleskin. Réalisé par François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Septième épisode.
À Paris, Jean Valjean et Cosette vivent dans la masure Gorbeau. Un jour, Jean Valjean aperçoit Javert qui les reconnaît et les poursuit. Il trouve refuge dans un couvent où travaille le vieux Fauchelevent. Une vie très douce commence pour eux. Les années passent. Les Thénardier habitent désormais dans la masure Gorbeau. Gavroche, leur fils, vit dans la rue. En 1827, Marius a 17 ans. Il a été élevé par son grand-père, M. Gilles Normand, un royaliste intransigeant. Son père, Georges Pontmercy, colonel d'Empire, retiré à Vernon, tombe malade. Dans une lettre, il réclame son fils. Marius se rend à son chevet.
Le lendemain, à la Brune, Marius arrivait à Vernon. On lui indiqua un logis. Il sonna. Une femme vint lui ouvrir.
Monsieur Pontmercy, pourrais-je lui parler? Je suis son fils, il m'attend.
Il ne vous attend plus.
Elle lui désigna du doigt la porte d'une salle basse. Il entra. À la clarté crépusculaire de la chandelle, on distinguait sur la joue du colonel gisante et pâle une grosse larme qui avait coulé de son œil mort. Cette larme, c'était le retard de son fils. Marius considéra cet homme qu'il voyait pour la première et pour la dernière fois. Il songea que cet homme était son père et que cet homme était mort, et il resta froid. Le colonel ne laissait rien. La servante trouva un chiffon de papier qu'elle remit à Marius.
Pour mon fils. L'empereur m'a fait baron sur le champ de bataille de Waterloo.
Puisque la restauration
me conteste ce titre que j'ai payé de mon sang,
mon fils le prendra.
Mon fils le prendra et le portera.
Il va sans dire qu'il en sera digne. À cette même bataille, un sergent m'a sauvé la vie. Cet homme s'appelle Thénardier.
Si mon fils le rencontre, il fera à Thénardier tout le bien qu'il pourra.
Après l'enterrement, Marius était revenu à Paris et s'était remis à son droit sans plus songer à son père. Il avait gardé les habitudes religieuses de son enfance. Un dimanche, qu'il était allé entendre la messe à Saint-Sulpice, il s'était agenouillé sans y faire attention sur une chaise en velours d'Utrecht au dossier de laquelle était écrit ce nom, Monsieur Mabeuf Marguillier.
Monsieur, c'est ma place.
Marius s'écarta avec empressement et le vieillard reprit sa chaise. La messe finie, Marius était resté pensif à quelques pas, le vieillard s'approcha de nouveau.
Je vous demande pardon de vous avoir dérangé. Vous avez dû me trouver fâcheux. Il faut que je vous explique. Voyez-vous, je tiens à cette place. J'ai vu venir pendant des années régulièrement un pauvre brave père qui n'avait pas d'autre occasion de voir son enfant parce que pour des arrangements de famille, on l'en empêchait. Il venait à l'heure où il savait qu'on menait son fils à la messe. Le petit ne se doutait pas que son père était là. Il ne savait même peut-être pas qu'il avait un père, l'innocent. Le père, lui, se tenait derrière ce pilier. Il regardait son enfant, il pleurait. Il adorait ce petit, ce pauvre homme. J'ai même un peu connu ce malheureux. Il s'était sacrifié pour que son fils fût riche un jour et heureux. On l'en séparait pour opinion politique. C'était un colonel de Bonaparte. Il est mort, je crois. Il demeurait à Vernon, où j'ai mon frère curé. Il s'appelait quelque chose comme Pontmarie ou Montpercy.
Pontmercy ?
Précisément, Pontmercy. Est-ce que vous l'avez connu ?
C'était mon père.
Eh bien, pauvre enfant, vous pouvez dire que vous avez eu un père qui vous a bien aimé.
Marius offrit son bras au vieillard et le ramena jusqu'à son logis. Il fut 3 jours absent, alla à la bibliothèque de l'école de droit et demanda la collection du moniteur. Il lut toutes les histoires de la République et de l'Empire, le mémorial de Sainte-Hélène, tous les mémoires, les journaux, les bulletins, il dévora tout. Un changement extraordinaire se faisait dans ses idées. Il s'aperçut qu'il n'avait pas plus compris son pays qu'il n'avait compris son père. Il était plein de regrets et de remords. Il avait un continuel sanglot dans le cœur qui disait à tout moment « Hélas !» À mesure qu'il se rapprochait de son père, il s'éloignait de son grand-père. Il était froid de plus en plus, laconique au repas et rare à la maison. Le grand-père ne sortait pas de son diagnostic infaillible.
« Amoureux, je m'y connais !»
Dans un de ses voyages, il était allé à Montfermeil. L'aubergiste Thénardier avait fait faillite, l'auberge était fermée. Il fut 4 jours hors de la maison. On avait cru remarquer sous sa chemise quelque chose qui était attaché à son cou par un ruban noir. Monsieur Gillenormand l'avait entendu rentrer, mais quand il entra dans la mansarde, Marius n'y était plus. Le lit n'était pas défait, et sur lui s'étalaient sans défiance la redingote et le cordon noir. Et un moment après, il fit son entrée dans le salon, tenant d'une main la redingote et de l'autre le ruban de cou.
« Nous allons pénétrer le mystère. Nous allons savoir le fin du fin. Nous allons palper les libertinages de notre sournois. » Nous voici à même le roman, j'ai le portrait.
Oh, voyons, mon père.
Je sais ce que c'est. Un billet doux.
Lisons donc. Pour mon fils. L'empereur m'a fait baron sur le champ de bataille de Waterloo.
C'est l'écriture de ce sabreur.
Quelques instants après, Marius parut.
Tiens, tiens. Tu es baron à présent? Je te fais mon compliment. Qu'est-ce que ça veut dire?
Cela veut dire que je suis le fils de mon père.
Ton père, c'est moi!
Mon père était un homme humble et héroïque, qui a servi la République et la France, qui est mort dans l'oubli et dans l'abandon, et qui n'a jamais eu qu'un tort, c'est de trop aimer deux ingrats, son pays et moi.
Marius, abominable enfant! Je ne sais pas ce qu'était ton père, je ne veux pas le savoir! Tu es baron comme ma pantoufle! C'étaient tous des bandits qui ont servi Robespierre! Tous des brigands qui ont servi Bonaparte, tous des traîtres qui ont trahi leur roi légitime, tous des lâches qui se sont sauvés devant les Prussiens et les Anglais à Waterloo.
À bas les Bourbons et ce gros cochon de Louis XVIII.
Un baron comme monsieur et un bourgeois comme moi ne peuvent rester sous le même toit. Va-t'en!
Qu'allait devenir Marius? À cette époque, indifférente en apparence, un certain frisson révolutionnaire courait vaguement. Des souffles, revenus des profondeurs de 89 et de 92, étaient dans l'air. La jeunesse était, qu'on nous passe le mot, en train de muer. Il y avait à Paris la Société des Amis de l'ABC, ayant pour but en apparence l'éducation des enfants, en réalité le redressement des hommes. L'ABC, c'était le peuple, on voulait le relever. Calembours dont on aurait tort de rire, ils sont quelquefois graves en politique. Cette société secrète à l'état d'embryon se réunissait en 2 endroits. Près des Halles, dans un cabaret appelé Corinthe, et près du Panthéon, dans un petit café de la place Saint-Michel, le café Musain, aujourd'hui démoli. La plupart des amis de l'ABC étaient des étudiants en entente cordiale avec quelques ouvriers. Voici les noms des principaux. Ils appartiennent dans une certaine mesure à l'histoire. Enjolras, Combeferre, Jean Prouvaire, Feuilly, Courfeyrac, Bahorel, L'Aigle, Joly, Grantaire. Ces jeunes gens faisaient entre eux une sorte de famille à force d'amitié. À côté d'Enjolras, qui représentait la logique de la Révolution, Combeferre en représentait la philosophie. Combeferre complétait et rectifiait Enjolras. Il disait « révolution, mais civilisation ». La Révolution avec lui était plus respirable. Enjolras en exprimait le droit divin et Combeferre le droit naturel. Le premier se rattachait à Robespierre, le second confinait à Condorcet. Enjolras était un chef, Combeferre un guide. Courfeyrac avait cette verve de jeunesse qu'on pourrait appeler la beauté du diable de l'esprit. Plus tard, cela s'éteint comme la gentillesse du petit chat. Et toute cette grâce aboutit sur deux pieds au bourgeois et sur quatre pattes au matou. L'aigle, ses camarades pour abréger, l'appelaient Bossuet. C'était un garçon gai qui avait du malheur. Sa spécialité était de ne réussir en rien. Par contre, il riait de tout. À tout moment, quelque misère lui advenait, de là sa jovialité. Il disait
« J'habite sous le toit des tuiles qui tombent. »
Tous ces jeunes gens, si divers, avaient une même religion, le progrès. Une certaine après-midi, l'aigle était sensuellement adossé au chambranle de la porte du café Musain. La rêverie n'empêche pas un cabriolet de passer et le songeur de remarquer le cabriolet. Il y avait dedans, à côté du cocher, un jeune homme et devant lui un gros sac de nuit. Le sac montrait aux passants ce nom, Marius Pontmercy.
Monsieur Marius Pontmercy ?
Hein ?
Vous êtes monsieur Marius Pontmercy ?
Sans doute.
Je vous cherchais.
Je ne vous connais pas.
Moi non plus, je ne vous connais point. Vous n'étiez pas avant-hier à l'école ?
Cela est possible. Vous êtes étudiant ?
Oui, monsieur, comme vous. Avant-hier, je suis entré à l'école par hasard. Le professeur était en train de faire l'appel. Au troisième appel manqué, on vous raye l'inscription. 60 francs dans le gouffre. Le professeur a répété pour la troisième fois, Marius Pontmercy. J'ai répondu présent. Cela fait que vous n'avez pas été rayé et que moi je l'ai été.
Je ne vous comprends pas.
Brusquement, le professeur saute à la lettre L. L, c'est ma lettre. Je suis de mots, je m'appelle l'aigle.
L'aigle, quel beau nom.
Je réponds présent. Le professeur me dit avec la douceur du tigre, si vous êtes Pontmercy, vous n'êtes pas l'aigle. Cela dit, il me raye.
Monsieur, je suis mortifié.
Et moi, ravi. J'étais sur la pente d'être avocat. Je renonce au triomphe du barreau. Je ne défendrai point la veuve et je n'attaquerai point l'orphelin. Plus de loge, plus de stage. Cette rature me sauve. C'est à vous que je la dois. Où demeurez-vous ?
Dans ce cabriolet. Je ne sais où aller.
Signe d'opulence. Je vous félicite.
En ce moment, Courfeyrac sortait du café.
Monsieur, venez chez moi ?
Courfeyrac ! J'aurai la priorité, mais je n'ai pas de chez moi.
Tais-toi, Bossuet.
Bossuet ? Mais il me semble que vous vous appeliez l'aigle.
Deux mots. Par métaphore, Bossuet.
Cocher, hôtel de la Porte Saint-Jacques.
Et le soir même, Marius était installé côte à côte avec Courfeyrac. Un matin, le maître d'hôtel entra dans la chambre de Marius.
Monsieur Courfeyrac a répondu pour vous, mais il me faudrait de l'argent.
Priez Courfeyrac de venir me parler.
Courfeyrac venu, l'hôte les quitta. Marius lui conta ce qu'il n'avait pas songé à lui dire encore, qu'il était comme seul au monde et n'ayant pas de parents.
Qu'allez-vous devenir ?
Je n'en sais rien.
Avez-vous de l'argent ? Voulez-vous que je vous en prête ?
Jamais.
Marius sortit de l'hôtel, ne voulant pas s'y endetter. La vie devint sévère pour lui. Il mangea de cette chose inexprimable qu'on appelle de la vache enragée. À travers tout cela, il se fit recevoir avocat. À force de courage, il était parvenu à tirer de son travail environ 700 francs par an. Grâce à son ami Courfeyrac, qu'il avait mis en rapport avec un ami libraire, il faisait des prospectus, traduisait des journaux, annotait des éditions. Il occupait dans la masure Gorbeau, moyennant le prix annuel de 30 francs, un taudis sans cheminée. À cette époque, Marius avait 20 ans. Il y avait 3 ans qu'il avait quitté son grand-père. Disons-le, Marius s'était mépris sur le cœur de son grand-père. Il se trompait. Monsieur Gillenormand idolâtrait Marius. Il avait ses heures d'abattement. Marius lui manquait. Les vieillards ont besoin d'affection comme de soleil. C'est de la chaleur. Depuis plus d'un an, Marius remarquait dans une allée déserte du Luxembourg un homme et une toute jeune fille toujours assis sur le même banc. Il examina cet homme vieux et cette petite fille qui n'était pas encore une personne. Frappé uniquement par la robe de la petite et les cheveux du vieux, il avait appelé la fille Mademoiselle Lanoire et le père Monsieur Leblanc. La seconde année, un jour, Marius y retourna. C'était par une sereine matinée d'été. Il était joyeux. Il alla droit à son allée et il aperçut toujours sur le même banc ce couple connu. Quand il approcha, c'était bien le même homme, mais il lui parut que ce n'était plus la même fille. C'était une grande et belle créature. Quand il passa près d'elle, il ne put voir ses yeux qui étaient baissés. Il ne vit que ses longs cils châtains pénétrés d'ombre et de pudeur. En 6 mois, la petite fille était devenue jeune fille. Un autre jour, l'air était tiède, le ciel pur, comme si les anges l'eussent lavé le matin. Il passa près de ce banc. La jeune fille leva les yeux sur lui. Leurs deux regards se rencontrèrent. Ce fut un étrange éclair. Elle baissa les yeux et il continua son chemin. Une quinzaine s'écoula ainsi. Marius allait au Luxembourg non plus pour se promener, mais pour s'y asseoir toujours à la même place et sans savoir pourquoi. Un des derniers jours de la seconde semaine, Marius tout à coup tressaillit. Monsieur Leblanc et sa fille se dirigeaient lentement vers le milieu de l'allée. L'auréole venait droit à lui.
Mon Dieu, je n'aurai jamais le temps de prendre une attitude. Qu'est-ce qu'ils viennent faire par ici? Comment? Elle va passer là?
La jeune fille passa et elle le regarda fixement avec une douceur pensive qui fit frissonner Marius de la tête aux pieds. Il la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle eût disparu. Puis il se mit à marcher comme un fou. C'en était fait. Marius aimait une femme. Sa destinée entrait dans l'inconnu. Tout un grand mois s'écoula, pendant lequel Marius alla tous les jours au Luxembourg. Il faut croire que M. Leblanc finissait par s'apercevoir de quelque chose. Le père commença à devenir inexact et n'amena plus sa fille tous les jours. Un soir, après qu'il les eut suivis jusque chez eux, rue de l'Ouest, il dit vaillamment au portier.
C'est le monsieur du premier qui vient de rentrer?
Non, c'est le monsieur du troisième. C'est un rentier, un homme bien bon, et qui fait du bien aux malheureux, quoique pas riche.
Comment s'appelle-t-il?
Est-ce que monsieur est un mouchard?
Le lendemain, monsieur Leblanc et sa fille ne firent au Luxembourg qu'une courte apparition. Marius les suivit. En arrivant à la porte cochère, M. Leblanc fit passer sa fille devant, puis se retourna et regarda Marius fixement. Le lendemain, il ne trouva personne au Luxembourg. Il alla à la maison et frappa à la porte.
Le monsieur du troisième?
Déménagé.
Depuis quand donc?
D'hier.
Il n'a point laissé sa nouvelle adresse?
Non.
L'été passa, puis l'automne. L'hiver vint. Marius tomba dans une tristesse noire. Il n'avait pas cessé d'habiter la Masure Gorbeau. Il n'y faisait attention à personne. À cette époque, il n'y avait plus dans cette masure d'autres habitants que lui et ses Jondrettes, dont il avait une fois acquitté le loyer, sans avoir du reste jamais parlé ni au père ni aux filles. Vers 7 heures du matin, il venait de se lever lorsqu'on frappa doucement à sa porte.
Entrez.
Pardon, monsieur.
Que voulez-vous, mademoiselle?
La jeune fille entra résolument. Elle avait les pieds nus. De larges trous à son jupon laissaient voir ses longues jambes et ses genoux maigres. Elle grelottait.
C'est une lettre pour vous, monsieur Marius.
Mon aimable voisin, jeune homme. J'ai appris vos bontés pour moi, que vous avez payé mon terme il y a 6 mois. Je vous bénis. Ma fille aînée vous dira que nous sommes sans un morceau de pain depuis 2 jours.
Nous sommes sans un morceau de pain depuis 2 jours. Je crois devoir espérer que votre cœur généreux s'humanisera à cet exposé et vous subjuguera le désir de m'être propice en daignant me prodiguer un léger bienfait. Je suis avec la considération distinguée qu'on doit au bienfaiteur de l'humanité.
Jondrette.
Cependant, la jeune fille allait et venait dans la mansarde avec une audace de spectre. Elle furetait ce qu'il y avait dans les coins.
Tiens, vous avez un miroir. Des livres. Je sais lire, moi. Allez-vous quelquefois au spectacle? Moi, j'y vais. J'ai un petit frère qui est ami avec des artistes et qui me donne des fois des billets. Savez-vous, monsieur Marius, que vous êtes un joli garçon? Vous ne faites pas attention à moi, mais je vous connais, je vous rencontre ici, dans l'escalier. Cela vous va très bien. Vos cheveux ébouriffés. Savez-vous ce que cela fera si nous déjeunons aujourd'hui? Cela fera que nous aurons eu notre déjeuner d'avant-hier.
Tenez.
Oh, 5 francs. Du luisant. Vous êtes un bon mion. Je vous fonce, mon palpitant. Bravo les Finlandais. 2 jours de pivois et de viande mûche. Bonjour, monsieur. Je vais trouver mon vieux.
Marius avait vécu dans la pauvreté, dans le dénuement, mais il s'aperçut qu'il n'avait point connu la vraie misère. Tout à coup, il se leva, il venait de remarquer près du plafond un trou triangulaire. Il escalada la commode, approcha sa prunelle de la crevasse et regarda. Le taudis où son regard plongeait était sale, ténébreux. Près de la table sur laquelle il apercevait une plume, de l'encre et du papier, était assis un homme d'environ 60 ans, petit, maigre, livide, l'air cruel et inquiet, un gredin hideux.
Il n'y a pas d'égalité, même quand on est mort. Voyez un peu le Père Lachaise. Les grands, ceux qui sont riches, sont en haut dans l'allée des acacias qui est pavée, peuvent y arriver en voiture. Les petits, les pauvres gens, les malheureux, quoi. On les met dans le bas. Où il y a de la boue jusqu'aux genoux, dans les trous, dans l'humidité, pour qu'ils soient plus vite gâtés. Oh, je mangerai le monde!
Ne te fais pas de mal, chérie. Tu es trop bon d'écrire à tous ces gens-là, mon homme.
Il vient!
Le philanthrope de l'église Saint-Jacques, tu es sûr?
Je suis sûr, il est derrière mes talons.
Ah, ma femme, tu entends? Éteins le feu! Éponine, dépaille la chaise! Azelma, vite, casse un carreau!
Mon trésor, ne pleure pas, tu vas fâcher ton père.
Non, au contraire, sanglote, cela fait bien.